La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Je disais que c'était l'avant-dernière matinale de la saison. Et je suis arrivée ici en février et je n'ai pas compté le nombre d'émissions réalisées depuis. Et à vrai dire, ce n'est pas bien grave parce qu'au fond, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est plutôt ce que j'ai vécu derrière ce micro. Et avant de raccrocher le micro pour l'été ou les troquer contre les glaces à l'italienne, je voulais prendre un petit moment pour vous dire un grand, un énorme et un stratosphérique merci. Merci d'avoir été là à 19h du lundi au jeudi sur le 93.9. Merci à celles et ceux qui nous rattrapent en replay sur Spotify, en pyjama ou en métro. Et Radio Campus, c'est une radio pas comme les autres. Ce n'est pas un radio nostalgie, c'est pas BFM, ce n'est pas France Inter non plus. Même si parfois on se prend un peu pour eux, surtout quand on parle dans un micro avec beaucoup de sérieux, car nous traitons aussi des sujets très sérieux. Radio Campus, c'est une radio jeune, libre, sérieuse et parfois un peu foutraque. Et c'est ce qui fait son charme. Une radio école où on apprend, on tâtonne, on se plante et on recommence, où les erreurs techniques comme ce soir font partie du décor et le « Oups, tu as oublié d'ouvrir mon micro », c'est une phrase tout à fait acceptable. Une radio qui donne leur chance à des stagiaires, des alternants, alternantes, des services civiques, des bénévoles, des passionnés encadrés par des pros qui eux aussi ont eu un jour leur première fois à l'antenne. Alors oui, il reste une émission le 15 juillet, mais deux minutes dans une seule émission ne suffiront pas pour dire à quel point vous êtes important. Vous êtes le carburant de cette matinale. Sans vous, on serait juste des gens qui parlent tout seuls dans une pièce insonorisée et qui est beaucoup moins fun. Alors merci pour cette saison, merci pour vos oreilles attentives. Le 15 juillet, ce sera la la toute dernière matinale de la saison. Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet, c'est un peu l'avant-première de la dernière. Alors restez avec nous parce que le programme est riche, varié, vivant, des chroniques, des surprises et surtout des invités passionnants et talentueux. Vive la radio et vive la matinale. Au sommaire de cette matinale de 19h, à l'interview Anaïs, point sur la situation au Moyen-Orient, notre invité, le député et membre de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur Pierre-Yves Cadalan. Le tour de l'actualité avec Rania. Pour les Zooms, ce sera avec Héloïse. Le premier sur le tabou du suicide en France, en compagnie de Edgar Mermet, réalisateur du documentaire Suicide, brisons le tabou. Et un deuxième Zoom, et ce sera White Corbeau qui sera avec nous, artiste talentueux et polyvalent, originaire de Bruxelles, à l'occasion de la sortie de son EP Forêt. Nordine, pour la dernière chronique, sa dernière, ce sera Technophilo. Et enfin, nous terminerons cette émission avec Fabien. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite... Monsieur Pierre-Yves Cadalan, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes député à la Commission des Affaires étrangères et on va parler de la situation au Proche-Orient. Et c'était avec Anaïs. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Francesca, bonsoir Pierre-Yves Cadalan.
Bonsoir. Alors,
vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Ah oui, moi j'entends pas bien.
Mettez le casque.
Ah, le casque, pardon. Oui. Pardon, voilà, je vous entends mieux maintenant.
Aucun problème.
Ok. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait l'actualité. Il s'agit du conflit au Proche-Orient. Qu'est-ce qui est discuté en ce moment à l'Assemblée ?
Mais écoutez, à l'Assemblée nationale, la semaine passée, il y a eu un projet de résolution qui a été déposé précisément par mon groupe parlementaire, le groupe Insoumis, qui visait à ce que les parlementaires puissent prendre position pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, parce que comme vous le savez, cet accord implique une clause de respect des droits humains. Et bien entendu, aujourd'hui, alors que la situation à Gaza est absolument terrible et que la politique génocidaire continue, eh bien, cet accord doit, dans les plus brefs délais, être suspendu. Malheureusement, il a été battu en commission des affaires européennes, parce que c'est là que sont examinées les propositions de résolution européenne. Il a été battu par une jonction, si vous voulez, à ce moment-là, des députés de droite et d'extrême droite.
D'accord, oui, c'est... oui, effectivement, oui, ça c'est quelque chose... Oui, c'est un grand, grand, grand sujet. Et autre question, dimanche dernier, des négociations ont repris en vue d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Il prévoit un arrêt des combats pendant 60 jours, pardon, ainsi que la libération d'otages. Êtes-vous optimiste vis-à-vis de cette négociation, enfin de ces négociations plutôt, pardon?
Ben, disons que cela fait désormais 15 mois, nous appelons à cesser le feu, car nous avons toujours dit que entrer dans une spirale de violence terrible ne produirait que des désastres supplémentaires à chaque fois.
Et
on le voit aujourd'hui. C'est à la fois la situation humanitaire atroce à Gaza. Enfin, un économiste de l'Université de Londres a même estimé que on était désormais à plus de 100 000 morts liés au conflit à Gaza et en fait à ce qui est un génocide, comme la Cour internationale de justice s'est prononcée d'ailleurs en ce sens l'année dernière. Donc ce cessez-le-feu, il est absolument impératif, nécessaire et il doit intervenir dans les plus brefs délais. Mais je pense que des sanctions aussi doivent intervenir pour faire pression afin qu'Israël et le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou cessent de massacrer la population civile de Gaza et même aujourd'hui, il faut le dire, de faire usage de l'aide humanitaire comme une arme de guerre, ce qui est proprement scandaleux. Vous avez sans doute vu également les vidéos de personnes qui, en réalité, ont le choix entre soit mourir de faim, soit tenter d'aller chercher quelques vivres en risquant de se faire abattre au passage, ce qui est absolument terrible et je veux le dire, ce qui est absolument contraire au droit international, puisque le droit international prévoit précisément que l'aide humanitaire ne soit gérée par aucune des parties au conflit.
Et oui, tout à fait.
Et pour cette raison simple, que si c'est géré par une des parties au conflit, eh bien vous vous trouvez effectivement la possibilité d'en faire une arme de guerre, comme on le voit ces derniers jours.
Oui, tout à fait, parce que justement, j'ai vu tout à l'heure dans un article qu'il y avait une maman, lorsqu'elle préparait le petit déjeuner pour ses enfants, avait du pain sec et une boîte de fèves. Donc, voyez, oui, ils se contentent vraiment du strict minimum, comment dire.
Oui, et puis c'est vraiment une situation de famine en réalité.
Hein. Oui, tout à fait.
Voilà, donc on est dans un moment qui est un moment de bascule parce que c'est vrai que nous, on a le débat qui est structuré un peu par l'espace médiatique français, etc. Mais au niveau international, ce qui se voit, c'est un immense deux poids, deux mesures entre, mettons par exemple, la violation de la souveraineté ukrainienne d'un côté, et les crimes de guerre commis par Poutine qui ont donné lieu à un certain nombre de sanctions. Je crois qu'on est à 17 trames sanctions de l'Union européenne. Et de l'autre côté, une politique génocidaire, des enfants estropiés qui se comptent par milliers et une famine organisée comme arme de guerre. Et là, zéro sanction.
Ah oui,
et ça, c'est quelque chose qui est visible par l'ensemble des pays, notamment les pays du Sud.
C'est hallucinant. Et il y a deux semaines, un sujet d'importance a été le cessez-le-feu, donc on est toujours dans ce sujet-là, négocié entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Que pensez-vous de l'implication de Donald Trump dans le conflit, d'un point de vue diplomatique?
Ben, on peut commencer par dire qu'il y a malheureusement une sorte de remarquable continuité dans le soutien plein, entier, total, et notamment sur le plan militaire et d'exportation d'armement des États-Unis envers Israël, quelle que soit sa politique, ce qui donne lieu à un sentiment, d'une certaine façon, ce qui donne lieu à l'idée qu'ils peuvent agir en toute impunité.
Ah,
et ce qui met en cause le droit international lui-même. Et si on voit la question même du conflit en Iran, de ce point de vue-là, elle est particulièrement intéressante parce que le fait générateur du conflit, c'est le bombardement des infrastructures civiles nucléaires iraniennes par Israël, par le gouvernement de Netanyahou, qui, je le rappelle, est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et qui vient de survoler la France sans être arrêté,
exactement,
alors que la France aurait dû l'arrêter.
Exactement.
Mais donc, Israël commence, c'est-à-dire engage le conflit contre un autre État, si est hors droit international. On n'a pas le droit de faire ça. Hein. Donc ça, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas le droit de rentrer comme ça en conflit, sauf à être en situation de légitime défense. Et donc eux, ils disent qu'ils sont en situation de légitime défense préventive. C'est-à-dire, ils se sentent menacés, donc ils attaquent. Mais à ce compte-là, en fait, tout le monde rentrerait en conflit tout le temps. Parce que beaucoup d'États ont tout un tas de raisons d'imaginer et qui sont menacés par leurs voisins ou par d'autres pays. Donc c'est très grave et c'est d'autant plus grave que la France a communiqué juste après les frappes israéliennes en soutenant le droit d'Israël à se défendre. Mais il ne s'agit pas là, de défendre ce droit-là, qui est un droit légitime pour tous les États. Et parce que là, en réalité, c'est, la France a défendu le droit d'Israël à attaquer. Et le droit d'Israël a utilisé ce concept de guerre préventive, qui est un concept catastrophique, qui a présidé et donné lieu à l'invasion de l'Irak en 2003, d'ailleurs à laquelle la France s'était opposée à l'époque sous Jacques Chirac. Et cette invasion catastrophique a quand même produit 1 million de morts à la fin, et la naissance de Daesh, dont on devrait aussi s'interroger sur comment l'escalade militaire derrière la généralisation d'une logique de violence finit par produire des situations toujours plus adverses, toujours plus dangereuses.
Mais oui, c'est vrai que c'est une situation assez dangereuse, oui. C'est voilà.
Je voulais poser une question.
Bah, d'ailleurs,
oui.
Je me permets juste un petit complément sur ce sujet, c'est que. C'est le premier effet, d'ailleurs, cette guerre de 12 jours qu'Israël a menée à l'Iran, c'est que l'Iran se retire de l'AIEA, l'Agence de coopération sur la gestion de l'énergie atomique. Et donc, ça veut dire que les inspecteurs qui étaient chargés d'examiner le nucléaire civil iranien partent de l'Iran. Donc, le premier effet de cela, c'est qu'on n'a plus de contrôle sur le nucléaire civil iranien et donc sur la possibilité ou non de le militariser. Donc c'est contre-productif, absolument.
Allez-y, je vous en prie, Anis.
Oui, pardon, oui. Il y a aussi des rumeurs sur une éventuelle rencontre prochainement entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères à Oslo. Pardon. Cet échange qui porterait bien sûr sur les reprises des négociations sur le nucléaire. Selon vous, cette rumeur va-t-elle se concrétiser? Ou est-ce que c'est une fake news?
Ah bah alors ça, il faudra voir si les échanges reprennent. Et ces échanges d'ailleurs ont vocation à être plutôt multilatéraux, même si évidemment les États-Unis jouent un rôle prépondérant du fait de leur puissance internationale. Mais ces échanges sur la question du nucléaire civil iranien étaient prévus pour le dimanche, 3 jours après l'attaque israélienne. Des échanges formels pour continuer, pour reprendre les négociations dans le cadre de cet accord dont Trump est lui-même sorti en 2018, d'ailleurs, lors de son premier mandat. Donc la solution diplomatique, il faut toujours de toute façon l'essayer. Il n'y a que celle-là. Mais la situation produite par la guerre engagée par Israël est tout à fait désastreuse, parce qu'on peut même se dire qu'elle produit un effet assez calamiteux, au sens où des États pourraient tout à fait se dire, d'autres États que l'Iran pourraient se dire, mais il faut que nous nous dotions de l'arme nucléaire si nous ne voulons pas être victimes d'attaques intempestives de la sorte. Et à ce moment-là, le risque, c'est la prolifération nucléaire, et la doctrine française est très claire là-dessus, et c'est celle de la France insoumise également, c'est la lutte contre la prolifération nucléaire et la lutte pour le désarmement multilatéral. Quoi.
Alors, on va faire une coupure musicale, Monsieur Cadalan, et on va revenir tout de suite. Alors, on va écouter Guilt Trip avec l'artiste Sid Bey. Merci. You say I wanna go away to Palm Springs. We could make good love and strong drinks. You could bring up my ex and we fight. Pretend we gonna leave, we stay the night. Say that's alright, and we could try. Be good together, treat you right. What's your sign? Fake as hell. Say goodbye, wish you well. But there's something about the way you say my name. Makes me wanna go back to your place. Something about the way you take your time. Makes me wanna waste all mine with you. Hey, let's take a guilt trip. Get your feels, pick a fight till we kill it.
Put your hands up on my waist. Said I think on it. How you acting like I'm the one who wastes your time? You're bringing up the past like we're always gonna last. You can lean on it. You can lean on it. Why you acting like I'm the one who makes you cry? But there's something that I feel though. I'm lost with the fake and real though. And our friends have heard the stories. I'm sure we sound crazy. I need you here, baby.
But there's something about the way you say my name. Makes me wanna go back to your place. Something about the way you take your time. Makes me wanna waste all mine with you.
Oui. Alors, on retrouve tout de suite donc Monsieur Cadalan pour la suite de l'interview. C'est avec vous, Anaïs.
Rebonjour. Donc nous parlions justement de la rumeur, donc qui est savoir si elle allait se concrétiser justement par rapport aux négociations avec un échange entre Steve Witkoff et le ministre iranien. À présent, maintenant, j'avais une autre question, du coup. Aujourd'hui, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort de 29 Palestiniens à Gaza, faisant suite à de nouvelles frappes israéliennes. Quelle position la France devrait adopter face à cette situation dramatique ?
Bien, la France ne cesse de dire, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, ou d'ailleurs par celle d'Emmanuel Macron, le président de la République, qu'elle défend le droit international. Mais dans les faits, pour défendre le droit international, il s'agit de s'en donner les moyens. Et je peux prendre un exemple sur la question de Gaza. Celui des sanctions dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire, zéro sanction ont été prises, alors qu'il serait possible de dénoncer l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il serait possible d'exiger de l'Allemagne, qui exporte des armes à Israël, mais également de le faire nous-mêmes, de cesser ses exports d'armes. Il serait possible de reconnaître immédiatement l'État de Palestine, comme l'ont fait d'ailleurs, par exemple, l'Irlande ou l'Espagne. L'Irlande qui a une sensibilité particulière, notamment à la question des luttes anticoloniales, parce que l'Irlande a subi pendant longtemps la domination britannique et d'une certaine façon est rentrée très vite dans l'idée que la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie était absolument inacceptable. Donc ça, c'est le premier champ, d'une certaine manière, de possibilités. Et ensuite, eh bien, il faut faire cesser à tout prix ce deux poids, deux mesures dont je parlais auparavant. Prenez par exemple l'exemple de la flottille de la liberté, où il y avait Rima Hassan, redéputée de notre force politique, et puis Greta Thunberg, avec tout un équipage. Donc, Greta Thunberg, la militante pour le climat, des jeunes pour le climat. Bon, ils sont arrivés, ils se sont fait kidnapper dans les eaux internationales. Or, il y a un principe de droit international qui est fondamental, c'est la liberté de navigation. Cette liberté de navigation, on la protège en mer Rouge quand les outils frappent les bateaux. Je veux dire, on la protège militairement. Et là, pour la flottille de la liberté, alors qu'il y avait plusieurs, je crois que c'était 6 concitoyennes et concitoyens français à bord, la France n'a eu aucun mot de condamnation par rapport au fait qu'ils aient été saisis avant de pouvoir apporter non seulement l'aide humanitaire qu'ils avaient sur leur bateau, mais en réalité avant de pouvoir briser le blocus humanitaire, parce que c'était bien l'objectif. Imaginez si la flottille de la liberté était arrivée jusqu'à Gaza, eh bien je pense qu'il y aurait eu des centaines et des centaines de bateaux à venir porter la solidarité au peuple palestinien, parce que ça nous déchire tous et toutes, ce que nous voyons, ce que nous... voyons éventuellement sur les réseaux sociaux, mais surtout ce que nous savons et ce que nous savons des conditions de vie là-bas depuis bien longtemps. Donc, y a une réponse claire, c'est respecter le droit international, ça implique de poser des actes, pas juste de faire de la parlotte comme Emmanuel Macron en fait si souvent.
Et selon le témoignage d'une Gazaoui rescapée des bombardements israéliens, à la Salama, le bilan de ces bombardements de Gaza est alarmant. Comment, selon vous, les citoyens français peuvent agir pour essayer de changer les choses ?
Ben, je pense que l'action de solidarité qui a été celle de la flottille de la liberté a manifesté plusieurs choses. Il y a eu un énorme soutien populaire dans le pays, mais pas que dans le pays, dans le monde entier. Et de même qu'il y a eu beaucoup de soutien pour la marche qui a été entamée pour apporter directement de l'aide et briser le blocus aussi des gens qui sont, ont tenté de passer à ce moment-là par l'Égypte. Cet énorme soutien, c'est à la fois le témoin d'une grande solidarité pour le peuple palestinien et ce qu'il subit en ce moment, et c'est aussi d'une certaine façon le témoin d'une impuissance parce que il y a eu une focalisation importante sur cette belle initiative parce qu'elle exprimait tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on veut donner de solidarité pour celles et ceux qui sont sous les bombes aujourd'hui, tous ces civils qui sont laissés à leur sort et que la communauté internationale abandonne complètement. Donc, seul que l'on peut faire comme citoyen français, c'est manifester. L'association France-Palestine Solidarité, elle ne cesse d'organiser avec d'autres associations, avec d'autres mouvements, mais manifestations auxquelles nous participons. Je pense, moi, à Brest, j'y vais très régulièrement aux manifestations qui s'y tiennent, mais il y en a partout dans le pays, et participer aux débats politiques sur ces questions-là, parce qu'il n'est pas possible, en réalité, il n'est pas possible, il faut absolument refuser que la critique du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou soit rendue impossible et assimilé en permanence à de l'antisémitisme. C'est insupportable en réalité. Et donc ça, il faut le refuser en discussion de famille, il faut le refuser avec ses amis, il faut dire justement, nous ne confondons pas l'ensemble des Juifs avec la politique d'extrême droite de Netanyahou, c'est ça qui serait antisémite. Et au contraire, nous défendons le principe d'égalité humaine, le principe de défense du droit international, et c'est précisément ce qui fait, je crois, la beauté de l'idée républicaine française, et y compris de la devise qui est au fronton de l'ensemble de nos mairies.
Et oui, mais alors après, c'est qu'est-ce qui va être discuté à l'heure actuelle prochainement aussi?
Macron s'était engagé pour une reconnaissance de l'État de Palestine en juin, elle a disparu. Cet engagement a disparu à la faveur du conflit déclenché par Netanyahou lui-même, ce qui était un comble. C'est-à-dire que c'est un geste offensif d'Israël et du gouvernement de Netanyahou qui produit le recul de Macron sur la question de la reconnaissance de la Palestine, alors que ça aurait dû être tout le contraire. Que précisément, pour faire désescalader, pour que autre chose se passe, eh bien, il aurait fallu que Macron maintienne sa conférence. Donc maintenant, il continue à nous dire, là, à l'Assemblée, oui, on va œuvrer à la reconnaissance de l'État de Palestine, mais faut-il rappeler quand même que une résolution a été votée sous le mandat de François Hollande par l'Assemblée nationale pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et le gouvernement, à ce moment-là, n'en a d'ailleurs tenu aucun compte. François Hollande n'a rien fait, ni son ministre des Affaires étrangères. Donc comment on pose des actes, on met les personnes qui souhaitent poser des actes au pouvoir. Et d'ailleurs, par parenthèse, ça me permet de rappeler que c'est le Nouveau Front Populaire qui a gagné les élections la dernière fois. Si le Nouveau Front Populaire avait le gouvernement comme nous aurions dû l'avoir de droit d'emblée, l'État de Palestine serait reconnu par la France. Donc il faut continuer à mener la bataille dans les mobilisations sociales, dans les mobilisations politiques, et puis faire élire ceux qui agirait conformément à ce qu'ils disent.
Merci beaucoup, ça va être la fin de cette interview. Merci beaucoup,
merci à vous. Merci de faire vivre ce genre d'espace de liberté et de débat, c'est très précieux.
Ah, merci.
Dans l'époque que nous traversons.
Bien sûr, merci pour votre retour. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.
Tout de suite, c'est le Flash Info, et c'est avec Rania. Bonsoir Rania.
Bonsoir, chers auditeurs sur Radio Campus. Le Sud souhaite avoir une plus grande place dans la médiation des conflits internationaux. Il s'agit des pays BRICS regroupant le Brésil.
Vas-y.
Il s'agit des pays du Sud regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En effet, le 6 et 7 juillet dernier, s'est tenu à Rio le sommet annuel de ces pays émergents. Mais cette fois-ci, et pour la première fois, sans Xi Jinping, président chinois, et Vladimir Poutine, président russe. Le groupe a notamment exprimé des inquiétudes quant aux réformes douanières, jugées comme unilatérales qui faussent le commerce par l'administration Trump. La réaction du président américain ne s'est pas faite attendre. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra appliquer un droit de douane supplémentaire de 10%, déclarait-il. Au sud des États-Unis, le Texas est fortement touché par des inondations meurtrières. 25 personnes sont mortes dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juillet en raison d'épisodes pluvieux inédits. Les intempéries touchent aussi la France. Et oui, les départements de l'Aude, l'Hérault ou encore les Bouches-du-Rhône, les premiers incendies se sont déclarés ce week-end. Des centaines de pompiers ont été mobilisés pour stopper le feu qui a brûlé plus de 400 hectares de forêt. Hier matin, à Marseille, s'est donné le procès de la rue Aubagne. En 2018, deux immeubles insalubres du centre s'étaient effondrés, faisant 8 morts et plusieurs blessés. Résultat, 3 copropriétaires ont été condamnés à de la prison ferme sous port de bracelets électroniques. Le maire de Grigny, en Seine-Saint-Denis, a salué comme un tournant la décision du juge à l'encontre de l'ancien adjoint au maire marseillais, notamment chargé du logement, qui déclarait que l'élu ne s'était aucunement engagé dans la lutte des immeubles en péril. Emmanuel Macron a rendu hommage à Olivier Marleix, député de l'Eure-et-Loir et chef de file Les Républicains. Il s'est suicidé et a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans. Contre l'entrisme islamiste, un dépôt de projet de loi a été déposé par le chef de la République française. Après l'apparition d'un rapport confidentiel sur les frères musulmans mai 2025, c'est maintenant le moment pour que le président se rattrape avec une première version qui était jugée insuffisante. Et donc voilà la deuxième. Cette décision prendra part dès le début de l'été et fait suite à un rassemblement avec plusieurs ministres, dont Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Le gel des avoirs financiers ou encore des sanctions contre toute entité qui ne respecte pas les lois de la République et soupçonnée de centrisme seront mises à l'honneur. Économie, ce 7 juillet, l'INSEE publiait ses données pour l'année 2023. Résultat peu satisfaisant. Le pays fait actuellement face à son taux de pauvreté le plus élevé depuis le début du décompte en 1996, avec 15,4%, avec une accentuation de l'écart entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Tour de France, au cours de la troisième étape, les 11 vélos Cofidis qui avaient été dérobés suite à un cambriolage ont été retrouvés. Une super nouvelle, affirme le général Cédric Vasseur. Kenya, encore une nouvelle journée de manifestation en commémoration au mouvement de protestation rappelant 1990.
Tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Supernova de l'artiste Adami.
Je suis comme une supernova qui brille pour la dernière fois. Dans ton cœur, je les descends pas. J'explose quand je suis dans tes bras. Regarde-moi filer, je suis une supernova. La lumière est belle, mais c'est bien la dernière fois. Garde tes kisses, j'aime pas ton jeu d'actrice. Ça me laisse des cicatrices, l'impression qu'on est à des années-lumière, toi et moi. J'aime pas ton jeu d'actrice, ça me laisse des cicatrices. J'suis déjà loin de toi comme une supernova. J'deviens un fou, j'deviens un fou. J'deviens un fou, j'deviens un fou. Le ciel comme une lame sur ton visage. Je file comme une comète et toi tu pleures des orages. Garde tes kisses, j'aime pas ton jeu d'actrice. Ça me laisse des cicatrices, l'impression qu'on est à des années-lumière, toi et moi. J'aime pas ton jeu d'actrice, ça me laisse des cicatrices. Je suis déjà loin de toi comme une supernova.
Alors nous venons d'écouter Supernova avec l'artiste Adami.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
C'est donc l'heure du Zoom et on retrouve Héloïse et donc Edgar Mermet pour donc le sujet suicide brisant le tabou. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonjour. Bonjour Edgar Mermet. Vous êtes journaliste, scénariste et réalisateur. Vous réalisez actuellement un documentaire sur la prévention du suicide en France intitulé « Suicide, brisons le tabou ». Votre constat est le suivant. Chaque année, plus de 9000 personnes se suicident en France. Cela représente 3 fois plus de décès que les accidents de la route, par exemple. Et pourtant, la prévention à ce sujet est quasi inexistante. Votre documentaire prendra la forme d'une série de 3 épisodes d'une heure chacun. J'aimerais qu'on parle de la genèse de ce documentaire pour commencer. Vous aviez initialement l'idée d'un court-métrage de fiction autour du suicide, puis celle d'un documentaire a germé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, donc du coup, j'ai un background, comme vous l'avez dit, plutôt de journaliste. Puis après, j'ai fait un stage notamment au Conservatoire d'écriture européen d'audiovisuel, qui est plus sur la scénarisation de séries policières. En gros, l'idée, c'est que je suis arrivé avec un court-métrage et j'ai du coup, parce que ce court-métrage parlait déjà du suicide, je me suis rapproché de professionnels de santé parce que je savais que c'était un sujet de santé publique. Et donc, du coup, je me suis dit que même si je faisais de la fiction, il fallait pas raconter n'importe quoi. Et donc, voilà, j'ai cherché, notamment via le réseau social LinkedIn, tous les professionnels de santé. Et il y a une personne qui m'a été recommandée par tout le monde qui s'appelle Nathalie Powells du programme Papageno. Le programme Papageno, en gros, c'est un programme gouvernemental qui forme les journalistes, donc du coup les gens un peu comme moi, et les auteurs de fiction, donc aussi ce que je cherchais à faire, sur justement la prévention du suicide, parce que voilà, toutes les pratiques qu'on apprend en journalisme ne sont pas forcément à appliquer en prévention du suicide. Et donc voilà, en fait, j'ai créé le documentaire que j'ai vu qui n'existait pas, en gros, à l'heure actuelle. Je me suis renseigné, j'ai cherché des documentaires, des études évidemment, des professionnels de santé, on a discuté. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de documentaire grand public. Là, on est en 2025, c'est l'année de la santé mentale, une grande cause nationale. Et donc voilà, j'ai souhaité rebondir. Alors à l'époque, on était en août 2024, donc moi, je rebondissais pas directement dessus. Mais il se trouve que le timing a été le bon.
Et donc votre documentaire, je le disais, va se décliner en 3 parties. Est-ce que vous pouvez me parler de ces différentes parties ? Est-ce qu'on va y aborder des thèmes différents, des interlocuteurs différents ?
Ouais, donc du coup l'idée c'était vraiment d'avoir un panorama, on va dire, le plus large possible, même si c'est pas possible. L'idée c'était déjà à la base, c'était censé être en 52 minutes, puis un documentaire d'une heure et demie. Et au final on a tellement été dépassé en fait par les intervenants qu'on a dû faire une série en plusieurs épisodes et on a même dû réduire à seulement 3 épisodes d'une heure. Et donc l'idée c'était d'avoir de tout. Le premier, ce qui arrivait, c'était évidemment les témoignages, c'est-à-dire de rendre concret vraiment le suicide, à la fois avec les personnes qui ont traversé des crises suicidaires, mais aussi avec des proches. Donc pour rebondir vraiment sur votre question, le premier épisode, il se consacre notamment sur le témoignage de parents qui ont été endeuillés par leur fille, enfin par le suicide de leur fille qui avait 20 ans à l'époque, qui s'est suicidée en pleine crise du Covid. Et donc voilà, l'idée c'était d'avoir à la fois des témoignages, en même temps un aspect plus clinique avec des professionnels de santé qui peuvent nous expliquer notamment le constat, les chiffres que vous avez donnés en amont, mais également des phénomènes qui sont méconnus comme la crise suicidaire, comme les facteurs de risque, de protection face à un risque de suicide. Et en même temps d'avoir aussi les associations et de terminer le documentaire pour le coup par un témoignage de personnes qui a vécu des crises suicidaires, qui évidemment s'en est sorti et qui est là pour témoigner, mais qui est aussi un témoignage de rétablissement, donc c'est-à-dire un témoignage plutôt, on va dire, lumineux, puisque c'est quelqu'un qui est aujourd'hui devenu ce qu'on appelle père aidante, qui est devenu maman, enfin voilà, qui a traversé vraiment des épreuves compliquées, mais qui aujourd'hui a construit une vie tout à fait stable, qui en plus est expatriée, puisqu'elle est française, elle est partie en Suisse, et donc voilà.
Et en parlant avec ces différents interlocuteurs, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Est-ce qu'il y a des informations, des chiffres auxquels vous ne vous attendiez pas ?
En vrai, j'ai à peu près tout découvert parce que je suis vraiment parti d'un court-métrage de fiction. Alors, moi, je me suis intéressé au sujet parce que j'ai eu des idées suicidaires. Donc, c'est pour ça que le sujet m'est venu. Il m'est pas venu, entre guillemets, par hasard. Mais pour le coup, j'ai tout découvert. Vraiment, à la fois les chiffres, à la fois les ressources, à la fois aussi le nombre de personnes touchées, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Du coup, que ce soit par LinkedIn, par un appel à témoignage que j'avais fait avec mon adresse mail. Donc j'ai reçu énormément de personnes qui me disaient être touchées. Et voilà, on sent aussi que c'est un tabou parce que personne n'en parle et c'est des gens de tout milieu, de tout âge, qui sont de toute classe sociale dans la société, qui peuvent être dans des grandes entreprises, comme aujourd'hui plutôt des gens qui ont été marginalisés parce que bah, ils ont eu des parcours de vie difficiles, des addictions, des parcours d'études qui ont été compliqués, etc.
Puisque nous sommes dans une radio, j'aimerais qu'on parle du traitement du suicide par les médias, vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement, et dont on sait qu'il peut avoir, en suivant certaines conditions, une portée préventive des comportements suicidaires. Et à ce propos, nous allons écouter un extrait de votre documentaire. Il s'agit d'un entretien avec Charles-Édouard Notre-Dame, psychiatre et coordinateur national adjoint du 3114, numéro national de prévention du suicide.
On en parle bien. C'est très important d'en parler, parce que c'est la seule manière de diminuer cette culpabilité et cette honte chez les personnes qui en souffrent. Mais il ne faut pas en parler n'importe comment parce qu'on sait aussi que parler du suicide de manière inappropriée dans les médias, surtout s'il s'agit de traiter de faits divers en lien avec le suicide par exemple d'une célébrité, peut entraîner des passages à l'acte. Dès lors qu'on est un peu prudent, il est tout à fait possible de parler du suicide, même d'une manière qui prévient les passages à l'acte, c'est ce qu'on appelle l'effet Papageno, et ça marche.
Alors, parler du suicide, mais pas n'importe comment. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'effet Papageno? Vous parliez tout à l'heure du programme Papageno et qu'est-ce que ça englobe en réalité, l'effet Papageno?
Justement, le programme Papageno, du coup, il est intervenant vraiment du documentaire. Et on le retrouve avec un binôme qui va être constitué de Héloïse Bajou, qui est consultante média pour le programme. Et puis, vraiment, un journaliste qui s'appelle Samuel Cogé, qui est fait diversier à La Voix du Nord. Donc, qui est un magazine, pardon, papier des Hauts-de-France, assez connu, qui justement va expliquer comment il a mis en pratique et parfois comment se contredisent à la fois les pratiques journalistiques et en même temps la prévention du suicide, notamment parce que, par exemple, dans la prévention du suicide, généralement, quand on est journaliste, ce qu'on veut savoir, c'est le où, comment, quand. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'en prévention du suicide, par exemple, le moyen suicidaire est vraiment proscrit, on va dire, généralement des articles. On a aussi beaucoup d'articles, justement, vous le disiez avec l'extrait de Charles-Édouard Notre-Dame, où on parle des célébrités, où généralement on termine avec des articles qui sont sans ressources. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, telle célébrité a mis fin à ses jours, et en même temps, on va pas vous donner le numéro du 3114. Il y a l'effet donc Papageno, qui est en fait l'effet que juste on parle du suicide et qu'en même temps, on va vouloir un phénomène en fait d'imitation. Et donc, on va se dire, bah, parce que moi, je suis fan de cet artiste, on va nous donner du coup généralement le moyen pour se suicider, quel qu'il soit, je vais pas le mentionner ici. Et donc, du coup, en fait, ça va être un scénario qui va déjà être, on va dire, pré-rédigé par les médias. Et c'est donc tout le but en fait du programme Papageno, qui en plus de cette prescription auprès des auteurs de fiction et des journalistes, a aussi tout un programme lié à ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des lieux où sont vraiment où les suicides sont très fréquents. Ça peut être des ponts, ça peut être des autoroutes, etc. Et donc vraiment des lieux qui vont être particulièrement, on va dire, regardés et qui vont être après inscrits dans le programme Papageno et après distribués aux autorités locales, régionales, etc. pour prévenir des futurs passages à l'acte.
On mesure aujourd'hui l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale, vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est notamment vrai chez les jeunes. Cela inclut une augmentation significative des tentatives de suicide, notamment chez les jeunes filles. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025 en France. En quelques mots, est-ce que cela représente pour vous un espoir pour la prévention du suicide dans les années à venir ?
Alors à la fois oui et non, ça c'est pas mes propos à moi parce que moi je suis pas professionnel de santé, donc pour le coup je suis qu'un passeur d'information. En revanche, j'ai été au contact direct des professionnels de santé durant plusieurs mois parce que j'ai commencé à travailler sur ce projet en août 2024, on est en juillet 2025, donc ça fait quasiment un an, et pour le coup c'est vrai que voilà, la grande cause a suscité beaucoup d'espoir, en même temps aussi beaucoup de déceptions, notamment du côté des moyens, puisqu'il y a eu tout le côté communication, et en même temps il y a eu le côté des moyens, il y a eu notamment la psychiatrie qui a été beaucoup mise de côté, qui est déjà le parent pauvre de la santé, parce qu'on en parle peu, on parle beaucoup des lits d'hôpitaux notamment, mais on parle très peu de la psychiatrie, et donc du coup on peut dire que voilà, il y a eu beaucoup d'espoir, et malheureusement pour l'instant, c'est un peu une déception, même si voilà, ça permet aussi de surfer, on va dire, sur la vague. Et ce documentaire, je ne l'avais pas prévu, mais aussi voilà, peut profiter du fait que l'année 2025 est l'année de la grande cause pour la santé mentale et que la prévention du suicide fait partie intégrante de la santé mentale, même si, encore une fois, le suicide, on n'en parle pas beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Edgar Mermet d'avoir été avec nous. Hélas, on va devoir arrêter là cette interview. Merci de nous avoir parlé de votre documentaire « Suicide, brisons le tabou ». Je précise pour les Parisiens parisiennes qu'une projection de débat est prévue le 11 septembre à Paris. Le lieu n'est pas encore connu, mais vous pouvez être tenu au courant sur les réseaux. Je rappelle aussi à nos auditeurs et auditrices que si vous êtes inquiet pour un proche ou si vous avez des idées suicidaires, vous pouvez appeler le 3114, numéro national de prévention du suicide. C'est un service gratuit qui propose une écoute professionnelle et confidentielle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des infirmiers et psychologues spécifiquement formés. Merci beaucoup
Héloïse, merci beaucoup Edgar Mermet. Tout de suite, c'est la chronique de Nordine, la dernière.
La matinale de 19h.
Bonsoir Nordine.
Bonsoir, c'est Nordine. Bienvenue sur cette dernière chronique technophilo. Si tu aimes la philosophie, la technologie et la techno, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de robots qui ont fait un marathon en Chine et comprendre avec les philosophes Marx et Stigler en quoi cela annonce une prolétarisation généralisée des travailleurs. Fin avril à Pékin, en Chine, une vingtaine de robots humanoïdes ont participé à un semi-marathon. Des concepteurs de robots issus de différentes firmes ont mis en concurrence leurs machines pour voir laquelle serait capable de finir le marathon en un temps record. Sur les 20 humanoïdes ayant couru à côté des coureurs humains, seulement 6 ont réussi à finir l'épreuve avec des chronos assez mauvais. Bien que les performances furent médiocres, les firmes robotiques chinoises qui ont fait participer leurs machines au semi-marathon se disent très satisfaites de l'expérience, dont le but premier était avant tout de récolter des informations pour savoir comment améliorer les humanoïdes. Mais philosophiquement parlant, comment pouvons-nous interpréter cette actualité ? En fait, cette course d'humanoïdes qui ont essayé de courir aussi bien que des humains symbolise et prédit ce que le philosophe Stigler nomme un processus de prolétarisation généralisée. En effet, il y a 3 siècles déjà, Karl Marx, dans son livre Le Capital, définissait la prolétarisation comme étant le processus par lequel, au cours de la révolution industrielle, les artisans, qui travaillaient en atelier ou en manufacture, sur de petites machines, en utilisant leur savoir-faire, vont entrer dans les usines pour travailler sur des machines automatisées, effectuer des tâches répétitives et ainsi perdre toutes leurs compétences techniques mais aussi le sens même de leur travail qui devient dans ces usines une besogne ingrate et aliénante. Bernard Stiegler, philosophe du 21e siècle, a repris ses analyses de Marx et affirme que le processus de prolétarisation et d'aliénation se poursuit à travers le développement des machines automates modernes, à travers l'IA, la robotique, qui prennent de plus en plus de place dans le secteur professionnel. Selon Stiegler, aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'ouvrier d'usine qui est prolétarisé, détaché de son savoir-faire, effectuant un travail aliénant, mais aussi et surtout les employés hautement qualifiés. En effet, dans son livre État de choc, le philosophe nous montre qu'on peut parler de prolétarisation à partir du moment où un savoir est automatisé, extériorisé dans une machine. Or, désormais, pour les travailleurs hautement qualifiés, les ingénieurs, les médecins, traducteurs, avocats, informaticiens et même les professeurs, les outils de l'IA prennent une part de plus en plus croissante et les assistent dans des tâches complexes. Le médecin pour ses diagnostics, l'informaticien dans ses analyses et l'avocat pour sa plaidoirie peuvent désormais utiliser l'IA pour accélérer leurs tâches intellectuelles. Mais en déléguant ainsi certaines opérations à la machine, ils extériorisent leur savoir-faire dans celle-ci, se dépossèdent de leurs compétences et doucement deviennent des ouvriers d'usine effectuant un travail automatisé par la machine. Ainsi, Stiegler nous le montre, le progrès des technologies robotiques et informatiques, le progrès de l'IA s'accompagne aussi d'une régression des savoir-faire pour tous les travailleurs et utilisateurs qui s'appuient sur celle-ci pour effectuer leurs tâches. Allons-nous réussir à utiliser le progrès technologique pour améliorer nos vies personnelles et professionnelles ? Ou au contraire, serons-nous dépossédés de nos savoir-faire, de nos savoir-vivre, aliénés par les processus d'automatisation des IA et des algorithmes ?
Merci beaucoup Nordine pour c'est la dernière de la saison, c'est ça pour toi ?
Tout à fait.
Ok, merci beaucoup. Et tout de suite, on va retrouver White Corbeau qui est en ligne avec nous, le talentueux artiste belge. Est-ce que vous nous entendez ?
Ouais, je vous entends. Et est-ce que vous m'entendez ? C'est ça la
Parfait,
question.
Parfait, on vous entend parfaitement.
Et super.
Et c'est Louise qui va mener l'interview. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir Wade Corbeau, tu es artiste aux influences multiples, reggae, soul, jazz, pop ou R&B. Après deux disques sortis en 2023 et 2024, tu es revenu le 18 juin avec Forêt. Forêt, c'est un EP introspectif de quatre titres qui nous entraîne dans un voyage initiatique et libérateur. Alors, on va parler de cette EP dans un instant, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de cet animal que tu as choisi comme nom d'artiste. Choisir un nom de scène, ce n'est pas anodin, alors pourquoi le corbeau ?
Alors, c'est d'abord venu en fait d'un rêve. J'ai rêvé d'un corbeau, un corbeau blanc. Et en fait, en faisant un peu des recherches sur le corbeau, je me suis rendu compte que c'était un animal très, très intelligent, hyper sociable et que il y a énormément de légendes, que ce soit amérindienne, viking ou encore même grecque, qui disent que de base, le corbeau était blanc. Et en fait, qu'il lui est arrivé une mésaventure et que c'est suite à cette mésaventure qu'il est devenu noir. Je trouvais cette légende plutôt poétique. Donc voilà, j'ai pris cet animal comme un totem maintenant qui me guide un peu dans ma carrière, quoi.
Et quand tu parles de ton EP, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot organique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi que de la musique organique et ce qui t'a poussé à te tourner vers ce type de production ?
Alors pour moi, la musique organique, c'est vraiment de la musique qui est faite avec des instruments, avec de vrais instruments et pas des instruments numériques. Parce que j'ai fait un constat quand même qui est que la musique... Qu'on écoute, que ce soit dans le hip-hop ou dans la pop, il y a quelque chose de plus en plus aseptisé, c'est-à-dire où on essaye de gommer absolument tout défaut, et je mets des guillemets hein, quand je dis défaut, pour moi c'est vraiment de la texture, quoi. Pour moi, comment dire, des fausses notes, des bugs d'accords, des imperfections, pour moi c'est vraiment ça qui fait la richesse au final de la musique, quoi.
Et dans ton EP, tu parles d'affronter tes peurs et tes doutes, c'est symbolisé par justement l'image de la forêt qui est le nom de ton EP. Comment est-ce qu'elle t'est venue, cette image de la forêt, pour symboliser ses peurs et ses doutes?
Alors cette forêt m'est venue de mon grand-père, en fait. Avant qu'il décède, j'ai vraiment beaucoup beaucoup passé de temps avec lui. J'ai pas beaucoup passé de temps. Non, j'ai fait l'effort de vraiment à chaque fois aller le voir, parce que moi je suis de Bruxelles, mais lui vivait à Orléans, et donc je faisais vraiment l'effort dès que je passais vers Paris, etc., d'aller le voir et de discuter avec lui pour créer des souvenirs, en fait. Et donc c'est de là qu'il m'a parlé de l'initiation ancestrale africaine en République centrafricaine, qui s'appelle le Ganja. Et c'est une cérémonie pendant laquelle, en fait, tous les enfants du village vont en brousse pour leur initiation. Et donc ils y vont en enfant et ils reviennent en adulte. Et c'était un peu pour moi une manière de créer, de me faire mon Ganja à moi, en rentrant dans la forêt, affronter mes peurs et en ressortir plus fort, quoi.
Et entrer dans une forêt, c'est accepter de se perdre. Est-ce que c'est une étape nécessaire pour se trouver, du coup?
Je sais pas si c'est la vérité pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça a été vraiment hyper utile de me mettre un peu en mode survie, quoi, tu vois. Je veux dire, la peur, c'est vraiment ça touche à un sentiment tellement tellement profond. Je veux dire, les humains ressentent la peur, les animaux ressentent la peur, et on a un peu une mise en exergue de tous nos sens quand on a peur. Et pour moi, ça, c'est le moyen de m'activer, de me sentir vivre à fond, quoi.
Ouais, je comprends très bien. Tu as signé récemment chez le label indépendant 75e Session, qui est basé à Paris, et c'est d'ailleurs le producteur Sheldon qui a produit ton EP. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et ce que ça représente pour toi de signer chez 75e Session?
Alors, ce projet, en fait, on l'a commencé à trois, du coup, avec Jimassa et Dabedine, qui sont les musiciens qui m'accompagnent sur scène. On a fait une résidence. De cette résidence est sorti donc
quatre chansons. Et puis, en fait, je me suis mis à fond dans ce que j'appelle un peu un coup de boost. C'est-à-dire que toutes les semaines, je postais deux vidéos sur mon Instagram pour vraiment, comment dire, on parle beaucoup de stats aujourd'hui, on parle beaucoup de choses autres que la musique, mais qui sont aussi importantes. Donc en fait, je me suis mis vraiment à fond dans une logique de je fais du contenu pour la machine, hein, pour l'algorithme, disons. Et ça m'a permis en fait de gagner énormément d'abonnés, de gagner énormément de visibilité, et dont Sheldon en fait, qui m'a découvert comme ça, et un jour il m'a envoyé un message en me disant écoute, j'aime bien ce que tu fais, quand tu passes à Paris, n'hésite pas quoi. Donc moi je raconte ça à ma copine, tout content, et elle me dit bah vas-y en fait, tu vois. Et c'est un peu ce truc de, on a tendance à être dans l'attente et à ne pas réellement saisir toutes les opportunités et à transformer les essais. Vraiment, je suis hyper reconnaissant de ma copine de m'avoir botté le cul de ce côté-là pour me pousser à aller chercher ça. On est parti en studio, on a fait une chanson et je lui ai fait écouter comme ça pendant qu'on faisait une pause, quoi. Je lui ai fait écouter les maquettes et il m'a dit que ça l'avait vraiment touché, parce que je lui ai expliqué, je lui ai pitché un peu en même temps, sous forme de conte un peu. Et en fait, je l'ai fait rentrer dans la forêt et il a carrément kiffé la vibe. Donc voilà comment ça s'est passé avec Sheldon. Et pour en revenir à ta question, la 75e session, je connaissais pas énormément la 75e session. Je suis pas un fanatique de rap parisien. Ouais. Je connais Sheldon de nom, je connais Népal de nom. Enfin, quand j'ai expliqué ça à mes potes, ils étaient en mode, mais mec, c'est trop cool, quoi, tu vois. Genre, je pense que tu te rends pas compte. Et effectivement, je me rends pas compte. Et je pense que c'est plutôt sain, en fait, de pas arriver là-dedans vraiment avec des énormes étoiles dans les yeux, énormément d'attentes, etc. Là, c'est vraiment un rapport hyper sain et je découvre en fait petit à petit ce monument qui m'a accueilli. Ça fait vraiment trop plaisir, quoi.
Et pour rester sur l'univers du rap, je crois que tu as découvert aussi les sessions nocturnes à cette occasion.
Ah ouais. Là, c'est la night. Après, j'ai fait des sessions de jour aussi. Mais les sessions de nuit, il faut être endurant. Il faut être endurant et maîtriser les micro-siestes. Ça, c'est ma technique.
C'est un bon conseil pour nos éditeurs et éditrices. Rapport en herbe.
Exactement. Parce que fatalement, il y a beaucoup de gens qui... On travaille tous différemment, quoi. Moi, je travaille beaucoup avec Jim Massa, qui est un père de famille, qui a un rythme de vie autre. Et donc le fait d'arriver là dans un autre environnement avec d'autres horaires, il faut s'adapter, hein. Il faut toujours s'adapter.
On parle de musique enregistrée là, mais on va aussi parler de live. Toi, tu as commencé à jouer et chanter dans la rue. Comment est-ce que tu penses que ça influence ton rapport à la scène?
Comment ça influence mon rapport à la scène? Ça me rend hyper dépendant de la vibe de la foule. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Genre, j'ai vraiment besoin, en fait, qu'on soit ensemble et quand je vous parle, que vous me répondiez, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est pas la télé, c'est un spectacle vivant, je suis un humain. Et quand je parle à quelqu'un, j'aime qu'il me réponde, et je pense que c'est un peu tout le monde est comme ça. Et c'est ce rapport à la rue, vraiment, ça me pousse à forcer l'humanisation en fait du live, pour vraiment faire participer les gens et qu'ils soient vraiment actifs dans cette expérience, dans cette cérémonie même, tu vois, parce que je les invite à chanter, je les invite à rentrer eux aussi dans cette forêt, quoi. Parce que quand je leur dis, c'est toujours la même chose, quoi. Quand je leur dis bonjour, comment allez-vous, il y a juste personne qui me répond. Et c'est un peu une manière de leur dire, bon, allez les gars, on se réveille. Hein,
on est des humains.
On est tous ensemble, on est des humains, on a des sentiments. Alors oui, peut-être que vous n'êtes pas au top aujourd'hui, mais pour les prochaines 45 minutes, essayons au moins d'oublier ça ou de faire semblant.
Ok, et ben hâte de vivre ça. En tout cas, on va devoir arrêter ici cette interview, hélas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, White Corbeau. Je rappelle que ton EP Forêt est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et puis quelques dates à venir: le 11 juillet en showcase au Francofolie de La Rochelle, le 20 juillet au Francofolie de Spa en Belgique, le 21 juillet au théâtre Cinévox à Avignon dans le cadre du off du Festival d'Avignon, et enfin le 24 août au Festival Les Solidarités à Namur en Belgique. Merci beaucoup.
Exactement.
Merci beaucoup. On va écouter un titre. Oui, alors un titre de White Corbeau, le titre Bodyguards.
If you see the holy light, I can tell my story. I can be your bodyguard. If you get to know me, if you get to know me now. Glace dans les veines, flamme dans l'iris, la gorge qui se serre, poil qui s'hérisse. Affronter les démons, rentre dans la forêt, quoi qu'on me dise. Nouvelle attitude, casse les limites, deep breath, stress j'élimine. Affronter les démons, rentre dans la forêt, forêt. Holy fire, don't go away. Now we get higher, won't you stay? Holy fire, don't go away. Now we get higher. If you see the holy light, I can tell my story. I can be your bodyguard. If you get to know me, if you get to know me now. J'ai pris des notes quand j'ai peur, je me connais. J'ai confiance quand le corbeau me guide. J'ai trouvé le feu au cœur de la forêt. Ça fait peur comme un saut dans le vide. Aïe, Zawa, je me suis brûlé les doigts. C'est pas des larmes de douleur, c'est des larmes de joie. Aïe, Zawa, je me suis brûlé les doigts. C'est pas des larmes de douleur. Yeah. Holy fire, don't go away. Now we get higher. Won't you stay?
Et c'est la fin de cette matinale. Nous venons d'écouter Bodyguard de White Corbeau. C'était Francesca, l'animation. Merci à nos invités. Pierre-Yves Cadalan, député de la Commission des Affaires étrangères. Edgar Mermet, réalisateur du documentaire Suicide, Brisons le tabou. Et enfin, donc, le talentueux White Corbeau. Merci à toute l'équipe. Anaïs pour l'interview. Rania pour le Flash Info. Héloïse pour les Zooms. Marius à la programmation et coordination. Merci PA pour la réalisation. Et Nordine pour la chronique. On revient mardi prochain pour la dernière, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts ou la matinale-RCP sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 et à mardi.